Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Les finalistes du primaire démarrent ce matin leur examen de fin du cycle INAFEP, c'est pour deux jours. À cette occasion, l'inspecteur général de l'éducation insiste sur le respect des mesures barrières contre Ebola dans les trois provinces touchées. Un dialogue entre Congolais et DRC penché sur l'ambiance contrastée qui a prévalu hier à Kinshasa et dans d'autres parties du pays. C'est à la suite de l'appel de l'opposition à une journée vivante. Vous suivez la lecture des intervenants. Dans ce journal aussi, cette réaction de la coalition article 64 sur la journée d'hier. Dans son communiqué, elle salue, je cite, la forte adhésion des citoyens à l'opération Villemante à Kinshasa et dans certaines villes du pays. Elle dit prendre cela comme une preuve que les Congolais sont contre le changement de la constitution. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. C'est confirmé, les bleus et blancs, spécialement les finalistes de l'école primaire, affrontent ce matin l'examen national de fin d'études primaires appelé INAFEP. Il va se faire sur toute l'étendue du territoire national. L'inspecteur général de l'éducation nationale qui l'annonce donne tout de même une recommandation détail à ne pas négliger. Hubert Kimbonza recommande aux candidats ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette épreuve certificative, notamment en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, de respecter scrupuleusement les mesures préventives contre la maladie à virus Ebola. Suivez cet extrait de sa déclaration que nous propose Blaise Ndongala.
L'INAFEP se déroulera du 4 au 5 juin 2026. Pour ce qui est de l'orientation, c'est-à-dire le TENASOSP, du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026. Quant à la session ordinaire de l'examen d'État est prévue du lundi 22 au jeudi 25, il faut que tous les candidats puissent porter de masque. Nous demandons à tous les chefs des centres de veiller pour qu'on dispose dans chaque centre ce qu'on appelle des points de lavage de mains. Et il ne faut pas que les enfants se lavent des mains avec de l'eau simple, mais il faut aussi que là où on se lave les mains, qu'on ait du savon, qu'on ait des gels hydroalcooliques. Le troisième, c'est la distanciation.
L'inspecteur général de l'éducation, un problème tout de même dans l'organisation de ces épreuves dans le Nord, le Sud Kivu et l'Ituri. Les prestataires chargés de la surveillance et de la correction grincent des dents et dénoncent le retard de paiement. La situation reste préoccupante malgré l'engagement du gouvernement central depuis 2023 de prendre en charge les frais d'organisation dans les 9 provinces éducationnelles touchées par la crise sécuritaire. Et mardi dernier, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, actuellement en mission à Kinshasa, a annoncé le paiement des arriérés de l'année passée. Écoutez le prophète Luc Bambouiza au micro de Rosalie Zawadi.
L'année dernière, la liquidation de fonds a été faite à hauteur de 49%. Et le gouvernement vient de liquider ces fonds, les 51% restants, pour que les prestataires puissent entrer en possession de leur dû. Quant aux épreuves de cette année, le processus est déjà très avancé, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, les prestataires pourront également bénéficier de leur dû, puisque le chef de l'État avait déjà pris cet engagement, il y a de cela maintenant 3 années consécutives, pour que les provinces déjà tellement sinistrées ne puissent plus encore débourser un rond pour la prise en charge des évaluations certificatives nationales puisque les parents sont démunis. L'État est venu à la rescousse de la communauté sinistrée pour permettre à ces enfants de pouvoir passer les évaluations certificatives nationales dans les mêmes conditions que leurs condisciples des autres provinces.
Pourtant, sur le terrain, les syndicats affirment ne pas avoir été informés de ces paiements. L'un des syndicalistes rappelle que l'an dernier, seule une prime sur 4 avait été versée. Malgré tout, les enseignants disent accepter de superviser les examens par patriotisme. Ils espèrent que le gouvernement respectera ses engagements dans un délai raisonnable. Sachez aussi que le paiement tardif du salaire des enseignants commence à faire des victimes dans la province du Kwilu. Le cas le plus récent est celui du directeur de l'école primaire Moufer, connu sous le nom de Ferro, qui s'est tué. Ce sexagénaire s'est donné la mort par pendaison dans la cité de Mangaï, dans l'ouest du territoire d'Idiofa. La cause des dettes cumulées à la suite des paiements tardifs du salaire et des gymnastiques incessantes pour accéder à son argent. Son corps sans vie a été retrouvé, hélas, mardi, en forêt après 3 jours de recherche. Un habitant de la cité, Jean par Radio Capi, explique ce drame qui a indigné la population locale. Les propos de Rodrigue Besca sont recueillis par Plotin Yambenga.
Les faits se sont déroulés à Mangaï, dans le territoire d'Idiofa. Le papa que nous avons vu sur les images était directeur d'école primaire. Il s'appelle Monsieur Moufer, affectueusement appelé Ferro. Il a été au moins retrouvé pendu en pleine forêt, mais les causes sont racontées multiplement. Mais ce qui revient le plus, c'est le surendettement. Comme enseignant, vous savez que les conditions à l'intérieur surtout sont très compliquées, avec les salaires presque tardifs qui arrivent aussi quand les concernés se sont endettés et même surendettés. Voilà la situation. Papa s'est donné la mort en pleine forêt, mais il a été découvert quelques jours après, malheureusement, déjà dans un état de composition. Voilà pourquoi on a dû récupérer ses restes pour inhumation dans son village. C'est regrettable, mais c'est arrivé comme ça. Ça s'est passé précisément à la commune rurale de Mangaï, dans le territoire d'Idiofa.
Notez qu'il y a 3 jours seulement, l'intersyndicale Kwilu 3 a dénoncé les difficultés liées au retrait des salaires des enseignants dans cette partie de la République. Cette structure syndicale a exhorté la banque payeuse Equity BCDC à multiplier des guichets pour mettre fin au calvaire que vivent ces professionnels de la craie et blanche. Autre titre de l'actualité, c'est Ebola. Avec le renfort du gouvernement et de ses partenaires en Ituri, les deux parties raffermissent leur soutien à la riposte contre l'épidémie d'Ebola avec plus de 20 tonnes de matériel offert par l'UNICEF. Ce matériel est arrivé mardi à Bunia. De leur côté, le gouvernement provincial et la MONUSCO ont remis mardi et mercredi des véhicules et équipements roulants destinés à améliorer la mobilité des équipes de riposte face aux défis logistiques liés à la lutte contre cette épidémie. Isaac Raymond.
Les gouvernements et ses partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF, l'EPAM, ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales internationales, poursuivent leurs efforts pour répondre aux besoins urgents liés à la lutte contre Ebola en Ituri. Mardi, l'UNICEF a acheminé à Bunia plus de 20 tonnes de matériel destiné à soutenir les opérations de riposte. Le même jour, le gouvernement provincial, qui a acquis certains matériels fournis par les partenaires, a remis au moins 3 jeeps et des motos aux équipes de riposte basées au centre de traitement Ebola de Rwanda afin de renforcer leur mobilité sur le terrain. Ce mercredi matin, la MONUSCO a également renforcé son appui en remettant à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, des ambulances destinées à l'évacuation rapide des malades vers les structures de prise en charge. La mission onusienne a aussi fourni des véhicules blindés ainsi qu'une jeep. Cette dotation vient s'ajouter à un premier lot composé d'ambulances, des véhicules tout-terrain et des 5 motos déjà remis aux acteurs de la riposte. Par ailleurs, depuis le 18 mai dernier, la MONUSCO a déjà assuré les transports logistiques de près de 100 tonnes de matériel destiné à la lutte contre Ebola. Ces différents appuis visent à améliorer la prise en charge des patients, à renforcer les mesures de prévention afin de limiter la propagation de cette maladie. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Santé toujours, 40 participants issus des organisations de la société civile engagés dans la riposte contre le VIH au sida. Ils prennent part à une session de formation axée sur des notions de prévention contre cette maladie dans la ville de Bandundu. Cette formation a été organisée, est organisée par le secrétariat exécutif provincial de l'Alliance multisectorielle de lutte contre le VIH au sida en République démocratique du Congo. Son objectif, contribuer à la réduction de la chaîne de transmission au sein de la communauté et entend également renforcer les connaissances des acteurs communautaires sur la prévention du VIH ainsi que sur les services de santé sexuelle et reproductive. Dr Julienne Meya, l'une des facilitatrices, est revenue sur l'importance de cette formation. Ses propos sont recueillis par Jean-Claude Tangamou, correspondant de la radio-télévision Bandundu Développement.
Il est vraiment impérieux qu'on forme les organisations de société civile parce que c'est eux qui sont en contact avec la population. Aujourd'hui, il y a les premiers volets de 95 du VIH où on doit dépister 95% de la population. Pour dépister ces gens-là, ils doivent être sensibilisés. La société civile nous aide à sensibiliser la population partout où ils se trouvent, où nous, les prestataires de santé qui restons dans nos cabinets médicaux, nous ne parvenons pas à arriver là-bas. Le VIH l'UNICEF, c'est prévenir d'abord. Et c'est eux qui nous léguent nos responsabilités dans les activités de sensibilisation et de la prévention, parce qu'ils touchent toutes les couches jusqu'au fin fond. Ils doivent avoir la matière claire, nette. Quand ils partent sur le terrain, ils sensibilisent, ils nous apportent ce qu'ils ont accepté de se faire dépister à l'hôpital. On les dépiste. Ceux qui sont positifs, on les prend en charge tôt avec les ARV. Ça donne une meilleure prise en charge. Les OAC nous aident aussi à éviter les discriminations par rapport à ceux qui sont positifs. Les OAC sont formés par rapport à ça.
Notez qu'à l'issue de cette formation, les acteurs communautaires seront déployés sur le terrain pour sensibiliser la population. Selon les statistiques disponibles, la province du Kwilu compte pour l'année 2026 un total de 7023 personnes vivant avec le VIH-Sida enregistrées. La coalition Article 64 salue la forte adhésion des citoyens à l'opération Ville Morte observée hier mercredi à Kinshasa et dans certaines villes de la RDC. Cette réaction de l'opposition est contenue dans un communiqué publié hier mercredi dans la soirée après l'organisation de cette opération. Je vous rappelle que dans les rues de Kinshasa, par exemple, l'ambiance était contrastée. Certaines artères étaient presque désertes, tandis que d'autres habitants ont tout de même choisi de sortir pendant ce temps. D'autres encore ont préféré rester chez eux pour suivre l'évolution de la situation. Mais pour l'instant, Benjamin Moudoumbi décortique pour nous le communiqué de la C64.
La coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel C64 salue la forte adhésion des citoyens à l'opération Ville Morte observée hier mercredi 3 juin 2026 dans la ville de Kinshasa et à travers plusieurs villes et localités du pays. D'après les signataires, cela témoigne du rejet catégorique par les Congolais du changement de la constitution ainsi que l'expression de leur profond attachement à la constitution du 18 février 2006, à l'état des droits et à l'alternance démocratique. La C64 félicite les Congolais pour avoir répondu nombreux à cet appel de manière pacifique, digne, responsable et disciplinée. Leur mobilisation démontre, selon eux, que la défense de la Constitution dépasse les clivages politiques et constitue une cause nationale. Ainsi donc, la C64 rendra publique, ce jeudi 4 juin 2026, à l'issue de sa réunion d'évaluation, une déclaration faisant le bilan de cette journée de Ville Morte et annonçant les prochaines actions qui seront engagées pour la défense de la Constitution et de l'état des droits.
Merci Benjamin Moudoumbi. Une coalition politique dénommée Article 5 ou C5 donne des exigences quelques jours seulement après sa création à Lubumbashi. Pas de référendum sans le Nord et le Sud Kivu, dit-elle. Il faut que le gouvernement rassure que les populations de ces deux provinces vont participer à ce vote. Propos de l'initiateur de cette nouvelle structure des jeunes au cours d'une conférence de presse tenue hier mercredi dans la capitale du Cuivre. C5 qui dit privilégier l'intérêt général indique que dans l'environnement politique congolais dominé par le débat sur le changement ou non de la Constitution, le peuple doit trancher sans cependant exclure les habitants qui vivent sous occupation rebelle. Les propos de Caleb Banza sont recueillis par Paulin Munanga.
Le référendum ne doit pas être considéré comme un mécanisme où on nous dépouille de notre force. Le référendum ne doit pas faire peur à la jeunesse. Le référendum devrait faire peur aux différents agendas des politiciens. Parce que les agendas des politiciens ne sont pas les agendas de la jeunesse. Les jeunes pensent à leur avenir. Le référendum est le meilleur moyen pour la jeunesse de décevoir certains politiciens. Et il y aura des déçus, que ce soit pour le changement ou pour le maintien de l'actuelle constitution. Mais avant d'aller à ce référendum, c'est là le préalable et les exigences que nous donnons. Qu'on rassure que nos frères du Nord et du Sud Kivu soient aussi capables de participer à ce référendum. Et ça, c'est un devoir de l'État et du gouvernement en place. Puisqu'ils ont droit de participer au débat. Et ce débat doit être inclusif et que l'on respecte la position de la jeunesse. L'opposition parle au nom du peuple, comme si à l'unanimité, le peuple avait donné un mandat à l'opposition. Le C4 parle au nom du peuple, comme si à l'unanimité, le peuple avait donné le mandat au C4. Mais quelle est la véritable position du peuple? Et comment le savoir? Ce n'est que par la voie référendaire.
La journée de l'enfant africain approche à grands pas, c'est le 16 juin prochain. Elle commémore le massacre de centaines d'enfants lors du soulèvement de Soweto en Afrique du Sud en 1976. En prévision donc de cette journée, les enfants de certains établissements scolaires de Kinshasa sont sensibilisés depuis le 1er juin dernier, notamment sur leurs droits. C'est par exemple le droit de vivre dans un environnement et encore sain, tout en gardant les valeurs culturelles congolaises. D'autres étaient avec Dina Lumingo, présidente de l'ONG Monde des enfants, joint par Jean Gandou.
Nous devons parler clairement aux enfants des sujets qui leur intéressent et cela a de l'impact à leur vie. Laisser les enfants comme ça apprendre dans la rue ou sur les réseaux sociaux devient un sérieux problème aujourd'hui. Alors, dans cette campagne, nous avons prévu parler de l'hygiène, l'assainissement ainsi que la culture africaine ainsi que congolaise. Pourquoi nous devons parler de cela? Nous devons parler de l'hygiène chez les enfants parce que les enfants, en grandissant, il y a des phénomènes qu'ils découvrent dans leur corps, il y a des choses qui se développent. Ils doivent apprendre comment prendre soin d'eux, comment gérer leur corps. Ça, c'est très important pour ne pas tomber dans le risque. Comme nous voyons, il y a des filles mères ou il y a des garçons qui engrossent les filles parce qu'ils ne savent pas se gérer à un certain âge. Nous devons leur parler clairement pour éviter cela. Et aussi, nous devons parler de la culture congolaise ou africaine parce que nous sommes en train d'évoluer dans un monde où il y a plusieurs réalités. Il y a la technologie par-ci, par-là. Mais notre culture, c'est nos valeurs, ce sont nos richesses en fait que nous devons conserver, nous ne devons pas négliger.
Actualité internationale.
Somalie, Mogadiscio, des coups de feu ont retenti hier en fin de journée dans le district central de Olwadag et sur l'axe d'Abka, semant la panique parmi les habitants. Selon plusieurs témoins et un journaliste de l'AFP, des affrontements ont opposé des unités de la police fédérale à des forces armées non clairement identifiées. Au cœur de l'incident, l'ancien premier ministre Hassan Ali Ikker a déclaré sur les réseaux sociaux avoir été visé par une attaque menée par des forces relevant selon lui de la présidence. Il affirme que ses partisans se préparaient à une manifestation pacifique prévu aujourd'hui jeudi contre la prolongation du mandat du chef de l'État. Le pouvoir de son côté rejette ces accusations et évoque un incident malheureux, imputant les violences à des milices armées liées à l'opposition.
L'invité.
Nous vous l'avons annoncé, la capitale congolaise a connu une journée particulière hier mercredi, marquée par l'appel de l'opposition à une ville morte pour protester contre tout changement de la constitution. Dans les rues, l'ambiance était contrastée, certaines artères étaient presque désertes, tandis que quelques habitants ont tout de même choisi de sortir, d'autres ont préféré rester chez eux pour suivre l'évolution de la situation. Les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier ont évalué cette journée du 3 juin à Kinshasa et dans certaines villes de la RDC. Je vous propose de les écouter au micro de Guimaté.
Prince Epengue, vous êtes président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka. Quelle évaluation vous faites de cette journée à Kinshasa ainsi que dans certaines villes de la RDC?
La ville morte a connu un succès à 80% malgré les intimidations de Jean-Pierre Liaou qui a demandé à tous les fonctionnaires et de rendre au travail suspendre et sanctionné. Malgré les intimidations du vice-ministre de l'Intérieur qui a intimidé les Congolais, malgré les harcèles des pays de presse qui a pris des mégaphones le soir et s'affiché pour aider les Congolais avec des fanfares pour aller au travail, malgré les intimidations du gouverneur et de la police qui ont obligé les magasins à ouvrir jusqu'à 13h, mais pas que la population congolaise est consciente de sa responsabilité, consciente que cela venait en jeu à respecter les consignes de l'opposition et est restée à la maison.
Merci, Meshak Mandefou. Vous êtes professeur à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Vous êtes député national élu de Kazumba au Kasaï Central et aussi président du groupe parlementaire AACPG à l'Assemblée nationale. Vous également, comment vous évaluez cette journée du 3 juin à Kinshasa et à travers la RDC?
Je viens de suivre M. Prince Epengue qui, selon lui, estime que cette prétendue ville morte a été une grande réussite à 80%, tantôt une fois de 89%. Moi, je pense que c'était une ville vivante parce que toutes les activités ont eu lieu partout. Je commence par moi-même. J'étais à l'université de Kinshasa le matin. J'ai enseigné les avant-midi. À 13h, j'ai terminé. Et tous les étudiants étaient sur le site. Et les activités étaient comme d'habitude. Déjà, à après-midi, l'Assemblée nationale avait convoqué une plénière. Nous y étions, la participation massive de tous les honorables députés. L'ordre du jour, on a débattu sur les questions qui ont été inscrites. Et ce soir, chacun est libre, il n'y a pas d'incident, il n'y avait pas de ville morte. Monsieur Prince Epengue, vous posez la question, il vous parle de Kimbuta. Voilà, nos amis qui ont été à la Tchangou, tout était normal. Et aujourd'hui, nous dire, voilà, 96%, je rappelle ici que c'était l'échec total.
tout était normal.
Merci. Alidor Chibanda, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. C'est quoi votre évaluation de cette journée du 3 juin 2026 à Kinshasa, ainsi que dans certaines villes de la RDC?
Nous devons reconnaître qu'il y a eu quand même un mot d'ordre de l'opposition qui a demandé à la population de rester à la maison. De ce mot d'ordre, en nous réveillant, nous avons constaté que l'ambiance des Kinois n'était pas la même. Et au regard de ce que vous avez dit, nous constatons que toute la République était en alerte et que le pouvoir s'est déployé pour déjouer ce que l'opposition avait demandé à la population. Est-ce qu'il faut dire que l'opposition a réussi son coup? Est-ce qu'il faut dire que le pouvoir a continué à avoir le contrôle total en empêchant le coup de l'opposition de réussir? Je dirais que la réponse pourrait, à mon niveau, être mitigée. Il nous est difficile aujourd'hui de dire effectivement que c'est par conviction, c'est par refus d'accompagner le pouvoir dans sa stratégie de changement ou de modification de la constitution que l'ambiance des Kinois était maussade, n'était pas au rythme habituel. Et pourquoi c'est arrivé? Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien eu.
Il y a
eu quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? J'appelle le pouvoir à bien réfléchir. Je suis politologue de formation. C'est un appel à revisiter les stratégies.
Je rappelle que vous pouvez continuer de suivre ce numéro de Dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net, aussi sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Fin de ce journal préparé par Lévin Mwinga, mise en onde par Jean-Claude Siala. Merci de votre attention. Bonne journée.